Donc, il y avait quelque chose qui drainait tout ça. Voilà, autant des filles que chez les garçons.
En termes de structure du compte et en général dans le compte, j'ai l'impression qu'il y a une extériorité dès le départ. Jean Bourse, dès sa naissance, il n'est pas dans une situation initiale. Il est déjà dans une situation initiale perturbée, entre guillemets, où enfin, c'est.
Ça dépend d'où on l'apprend, hein, parce que.
Oui, mais voilà, c'est une question. Et j'ai l'impression aussi que dans toute l'histoire, il y a cette idée de s'intégrer, d'avoir du mal à réussir à s'intégrer. Et finalement, à la fin, il réussit à, alors, quoi, à devenir roi, quoi, à se marier. Mais il y a à chaque fois
Ça dépend des versions. Il y a énormément de versions, que moi j'en ai eu quand même une bonne soixantaine de versions. Et il y a beaucoup de versions où il n'y a pas du tout d'intégration. On dit qu'il vit simplement heureux avec ses trois princesses ou avec sa princesse. Mais il y a même des endroits où il repart. Mais il n'y a aucune intégration sociale. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce conte nous parle beaucoup d'une intégration intérieure, pas obligatoirement sociale. Voilà. Et après, bon, que quelque part on puisse s'en servir pour aller vers le social, mais même la royauté, pour moi, on en parlait, je crois, déjà sur les autres versions, hein, la royauté, c'est un accomplissement de soi.
Mais oui.
C'est pas le roi en tant que puissance, hein, qui est en jeu. Voilà. C'est sa propre réalité. Hein.
Et c'est aussi pour ça, je pense que ça plaît tant aux ados, c'est parce que c'est l'hymne à la différence, quoi. Il est hors norme, mais hors norme de quoi, de qui, de comment? Il est très bien comme il est, sauf qu'il n'est pas comme les autres. Voilà. Et à la fin, il y a une acceptation pleinement de sa nature différente.
Normal.
Comment?
Il est trop normal.
Ça dépend.
Finalement, Jean de Gauss est issu de l'animal et de la femme. En fait, c'est un mélange animal-femme, ou masculin-féminin. On pourrait dire, c'est comment l'histoire, comment je veux vivre, je reconnaître. Finalement, Jean de Gauss, il incorpore, mais il vit sa partie féminine. Enfin, il est trop normal parce qu'il entre trop peut-être son côté féminin, ou son côté sexué, on va dire.
Je crois que quelque part, pour moi, c'est moins un problème sur les genres, genre de mousse, que sur un problème d'atteindre une humanité. C'est comment il construit son humanité, en fin de compte. Et c'est ça qu'il a compris. Et ce n'est pas un côté sexué.
Qu'est-ce qu'on met derrière le féminin et le masculin, ça n'a rien à
Oui,
voir avec
non.
le génital,
Oui,
c'est autre chose. Enfin,
oui.
que ces deux principes doivent coexister en chacun de nous, ça donne des voix.
Oui, j'entends ce que vous voulez dire, mais justement, pour moi, ce rééquilibrage masculin-féminin dans un être, ça donne une humanité.
Oui.
C'est ça qui est en jeu. Hein, voilà. Et c'est vraiment, pour moi, Jean de Lourdes, c'est un accomplissement vers une humanité, c'est-à-dire une acceptation de ces deux parts qu'on a en nous, voilà, et d'aller jusqu'au bout de ça.
Est-ce que tu peux rappeler la référence de l'auteur que tu as donnée
Il
tout
y
à
a
l'heure?
quatre auteurs par rapport au calendrier.
Oui.
Et par rapport, vous trouverez les éléments sur Jean de l'Ours aussi. Donc, il y en a un que vous connaissez sûrement, c'est Pastoureau, qui a écrit un magnifique bouquin sur l'ours. Il en a fait un il y a pas longtemps, entre parenthèses, sur le corbeau, qui est magnifique aussi. C'est très bien. Ensuite, il y a Dominique Lajoux. Dominique Lajoux, qui est un anthropologue, qui a travaillé sur les fêtes de l'ours dans l'Europe. Il parle de la Sibérie, il arrive jusque vers ici. Il y a un très, très beau, très bel ouvrage. Bon, critiqué par Bernard Sergent, vous retrouvez sa critique sur le plan linguistique. Bon, ça, c'est normal, il n'est pas linguiste, hein, il est anthropologue. Après, vous avez quelqu'un qui a aussi un grand classique qui a traité des fêtes d'Alsace-Urtèche, c'est Van Gennep, Arnold Van Gennep, qui a fait un très bel article sur les fêtes Et un dernier qui est plutôt, lui, branché côté ésotérique, mais aussi anthropo, calendaire, c'est Claude Gagnebé. Donc, Gagnebé, Gaignebet. Voilà. Si vous avez déjà ces trois-là, vous avez en gros une belle palette pour découvrir le travail d'anthropo sur l'ours, hein, et les histoires. Les trois doivent être au CMLE, je pense.
Michel, ben, je ne sais plus, Praneuf, l'ours dans la tradition européenne, qui parlait de
Il y en a eu d'autres, il y a plein d'autres. Si vous allez dans le rayon CMLO côté animaux, vous allez voir, il y a plein de bouquins anthropologiques. Il y a un bouquin qui a été fait sur l'ours et le loup. Il y a aussi pas mal de... Donc tout ça, c'est pareil, c'est des animaux qui sont tellement emblématiques de notre transfert humain-animal, notre relation, que vous en trouverez plein. Hein.
Alors, entre autres, toute ta réponse est passionnante, quelqu'un le dit. Et puis une question de Catherine Mort, que dire de certaines versions, dont celle de Massignon en Côte d'Armor, qui fait l'impasse sur l'épisode initial, l'enlèvement de la femme et la naissance du héros? Est-ce courant dans d'autres cultures voilà.
Alors, il y a énormément de versions où on fait l'impasse, hein, ou du moins on atténue cette partie-là, de façon tout à fait légitime d'ailleurs. Hein. Il y a des fois, c'est une femme qui se perd sur un air d'oubli. Voilà, c'est l'ours qui la recueille. Des fois, c'est un enfant qui est élevé par une ours. Voilà. Des fois, l'ours est remplacé par des brigands. En Amérique du Sud, c'est un tigre. Hein, voilà, donc... C'est évident qu'il y a une palette qui est énorme hein, au niveau des... Je crois qu'on est à plus de 500 versions connues hein, de Jean de l'Ours, donc si vous voulez faire le tour, il y a de quoi s'amuser. Mais en même temps, pour moi, cette première phase-là est importante selon ce qu'on veut dire avec ce conte-là. Si on veut travailler sur cette humanisation, c'est-à-dire de partir de notre animalité en profonde qui va devenir une humanité dans une série d'épreuves, ce passage-là est important parce qu'il fait en même temps un travail de gestation, c'est-à-dire que l'ours va la mettre dans une caverne, c'est pas rien symboliquement, une caverne c'est un ventre dans un ventre dans un ventre quand la femme est enceinte hein. D'accord, on est vraiment dans un lieu d'une gestation multiple qui est en train de se faire, on est vraiment sur une naissance particulière qui est une médiation entre l'animalité et l'humanité. Donc moi là on réveille des choses qui pour moi sont extrêmement importantes. Et en même temps, avec cette femme qui va accepter cette règle du jeu, il y a des versions extrêmement ambiguës où la femme a du mal à sortir, elle ne veut pas sortir. Elle veut rester dans la caverne. Hein? Donc tout ça, ça pose énormément de questions. Ça, c'est autant de choses qui sont... Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de... Toute version change quelque chose. Hein? Toute version d'un conte, de toute façon, prend un autre axe. Après, c'est nous, qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec notre histoire? Qu'est-ce qu'on est aussi capable de raconter?
Et hein, je pense par rapport à ce que tu dis que ça, c'est vraiment fondamental de trouver la version qui nous va bien, dans laquelle on se sent pleinement impliqué. Sans ça, c'est beaucoup moins intéressant pour le public, public enfant, adulte, etc. Et c'est fondamental de prendre le temps de choisir une version adaptée à nous-mêmes.
Oui, mais c'est parce que là, du coup, j'ai essayé de faire ça.
C'est bon? Oui. Je pensais au public, puisqu'on a parlé beaucoup d'adolescents. Et est-ce que vous imaginez un public de personnes âgées, en EHPAD, par exemple? Parce qu'on parle de l'humanisation, il y a tout le processus d'aller vers quelque chose du côté de l'épanouissement, de l'équilibre. Et l'EHPAD, comment se projeter dans l'avenir? Parce que c'est un avenir à court terme, souvent. Attends, on retrouve le PMH, par exemple.
Mais ça marche très bien avec les personnes âgées parce que ça leur, c'est un conte guérisseur. Comme j'ai donné les exemples, il y a beaucoup de personnes âgées. C'est comme si ça leur donnait le courage de s'auto-soigner, quoi, de vivre le présent pleinement, de parcourir le temps qu'ils n'ont pas fait durant leur vie. Le temps qui reste, c'est le temps de s'y mettre, quoi. Donc ça marche très bien avec les personnes âgées.
Il y a ça, et puis moi, pour les quelques expériences que j'ai pu avoir avec Jean de l'Ours à l'EHPAD, on leur racontait à Serge Cavalier à l'époque, sur des personnes âgées, ce qu'ils ont surtout retenu, bizarrement, c'est le passage dans notre monde et revenir. Mmh. Oui. Hein? On a tous cette curiosité d'aller voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Hein? Voilà. Donc là, il y a quelque chose, bon, qui ne le diront pas comme ça, mais bizarrement, c'est l'endroit qui leur plaît le plus. La descente dans le puits et la remontée de Jean de l'Ours sur l'aigle. Et, voilà. Donc on est vraiment, c'est pas gratuit non plus. Je pense que tous les contes, c'est avant tout une relation énergétique, un conte. Donc c'est pas